Voici venue l'heure du voyage biographique. Partir grâce au documentaire sur la piste de ces hommes et femmes d'exception qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. Il naît aux environs de 480 avant Jésus-Christ à Halicarnasse dans l'actuelle Turquie. Vers l'âge de 15 ans, il entame une série de voyages le menant d'Égypte en Macédoine en passant par la Syrie, Babylone ou encore le Caucase. Fin observateur, il s'informe sur l'histoire, les coutumes, la religion et la politique des contrées qu'il traverse. Aujourd'hui, Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin vous proposent le portrait d'Hérodote. 480-425, c'est toute une vie d'historien voyageur.
Bonjour.
Olivier Cocard.
Professeur d'histoire, ici, en cellule. Ils vous attendent, j'aurais dit qu'ils allaient être interrogés sur des trucs dont je n'avais pas le droit de leur parler.
D'accord.
Toute une vie, Hérodote, l'enquêteur d'Halicarnasse. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. François Hartog, vous êtes historien, vous travaillez maintenant depuis quelques années sur les régimes d'historicité. Mais vos travaux du début, notamment votre thèse, étaient consacrés à Hérodote. Un livre a été tiré de votre thèse qui s'appelle « Le miroir d'Hérodote », qui est paru en 1980. Votre thèse, vous l'avez soutenue entre 1979. Quelle était l'opinion et la place d'Hérodote parmi vos collègues historiens en 1979 ?
Vous me ramenez à des temps absolument préhistoriques. Alors, pour répondre à votre question, il faut sans doute dire un mot de la raison pour laquelle c'est finalement Hérodote sur lequel j'ai travaillé. C'est le premier livre que j'ai écrit, en effet. Et pour moi, il était quelqu'un qui avait la réputation d'être le père de l'histoire. Bon, c'est pas pour moi, il avait cette réputation depuis au moins l'Antiquité. Et il avait aussi la réputation d'être un menteur, de quelqu'un qui avait raconté des fables. Bon. Et c'était une première interrogation, au fond, pourquoi celui dont on dit qu'il est le père est-il aussi le menteur ? Ce qui pose du même coup le statut de l'écrit historique. Disons que ça, c'est la dimension écriture de l'histoire, telle qu'elle a pu être interrogée dans les années 70, 80, 90, en particulier à partir de l'œuvre de Michel de Certeau, avec son livre qui s'appelle précisément « L'écriture de l'histoire ». Donc ça, c'est une dimension qui n'était pas très présente, même très peu présente, chez les historiens dans ces années-là. Ça ne les intéressait pas vraiment, ou même pas du tout. Et puis, l'autre dimension, c'est Hérodote anthropologue. Et là, c'est évidemment lié à la conjoncture de ces mêmes années où l'anthropologie occupait le haut du pavé, si je puis dire, et la figure tutélaire était déjà, bien sûr, Claude Lévi-Strauss. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire une lecture anthropologique d'Hérodote pour aussi, en un sens, réhabiliter, c'est un peu prétentieux, mais enfin, réhabiliter Hérodote, qui était bien toujours là, bien sûr, le père, toujours dans un coin, mais qui au cours du XIXe siècle, avait été écrasé par Thucydide, avait été promu au rang de premier historien véritable.
Non menteur.
Oui, la méthode historique, c'est Thucydide. Dire ce qui s'est passé, c'est Thucydide. Et on faisait, c'est principalement les Allemands, ont fait de Thucydide une espèce de figure antérieure à celle de Ranke. Mais c'était au fond cette même histoire très scientifique, entre guillemets, que Thucydide, à part un certain nombre d'expressions qui ont été reprises, dire ce qui s'est passé, etc., pouvait incarner. Et du même coup, le pauvre Hérodote basculer un peu du côté des fables, du côté d'un raconteur d'histoire, du côté de quelqu'un, bon, qui était, toujours dans une perspective un peu évolutionniste, bon, qui venait avant et qui ne s'était pas encore pleinement dégagé des approches mythiques ou mythologiques. Voilà.
Bien. Donc, En fait, c'est vous qui allez leur rendre service, hein, donc...
Donc j'ai demandé à Olivier Coquart si je pouvais venir et vous demander ce que vous saviez sur Hérodote, comment vous le présenteriez aux débeautés. Christian Grataloup, vous êtes géographe. Hérodote est appelé le père de l'histoire. Est-ce qu'il pourrait aussi être appelé le père de la géographie ?
Oh, il peut être le père de l'anthropologie, d'ailleurs, également. Les anthropologues peuvent tout à fait légitimement le revendiquer. En fait, c'est une paternité qui n'a pas grand sens, dans la mesure où les notions disciplinaires, avant même le 19e siècle, n'ont pas grand sens. Au sens ça, les grands philosophes du 18e pourraient être tout autant rangés dans les différentes catégories. Ça revient au même. Donc... Oui, on peut dire qu'il est le père de la géographie. En tout cas, Yves Lacoste l'a revendiqué comme tel, à partir d'une filiation qui est amusante d'ailleurs, parce que c'était en tant qu'espion qu'il considérait qu'il était géographe, puisqu'il aurait été l'informateur de Périclès pour les territoires à conquérir. Donc, c'était de l'impérialisme, ce rôle qu'il confiait à la science. Mais c'est une époque où la revue Hérodote était en 76 jusqu'en 82 était assez gauchiste, donc il y avait le mot idéologie dans le sous-titre. Il y avait après il y a eu géopolitique, pas tout à fait pareil.
Est-ce qu'on trouve de la géopolitique dans les histoires d'Hérodote ?
Ah oui, 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 ça, je dirais même il y a que ça, puisque il s'agit toujours de voir les peuples par rapport au conflit entre les Grecs et les Perses. Donc nécessairement, c'est une question de géopolitique. Pourquoi, par exemple, le plus célèbre des travaux, enfin des textes anthropologiques d'Hérodote, c'est sur les Scythes, et ce texte est fait pour réfléchir pourquoi Darius, je crois, n'a pas réussi à conquérir la Scythie. Donc c'est bien une question strictement géopolitique qui est posée, qui amenait à s'intéresser au mode de vie des différentes populations. Oui. Inversement, le raisonnement peut être fait de la même manière pour l'Égypte. Pourquoi, au contraire, l'Égypte a pu être conquise par les Perses ? Justement, dans cette perspective géopolitique, il s'intéresse au mode de vie des Égyptiens. Mode de vie qu'il a probablement connu d'ailleurs, puisqu'il a voyagé très probablement en Égypte. Enfin, c'est ce qu'il nous dit, et on n'a pas de raison de ne pas le croire.
C'est Cicéron qui l'a nommé le père de l'histoire, et il a écrit, donc, c'est, comme on l'a dit, ces Historia, qui sont quand même aujourd'hui décrites comme des enquêtes. Donc il y a quand même un petit débat historiographique sur la véracité de ces faits, et notamment de ce qu'il décrit. Il a notamment beaucoup voyagé. Je crois que c'est lui qui a participé à la première élaboration des sept merveilles du monde, notamment dans ses voyages à Babylone. On a vu ça en philosophie. Il a également participé à l'élaboration d'un débat autour de la société et notamment autour du type d'État, avec le débat perse entre Darius, Mégabise et Otanès, merci, dont l'un défend la monarchie, l'autre l'anarchie et le troisième qui défend l'oligarchie. Peut-être, il faudra vérifier ça. Mais donc, il a touché un peu à tout, tant à la géographie, à l'histoire, mais aussi à l'anthropologie et à la démocratie, enfin, l'étude de la démocratie.
Alors, c'est vrai qu'il a souvent été opposé à Thucydide.
Stavroula Kefalonitis.
Qui, lui, progresse d'une manière chronologique beaucoup plus nette, pour être décrit comme un auteur qui divague, qui est peut-être un petit peu bavard, etc. Ça a même parfois été, par certains commentateurs, assimilé à une forme de naïveté, voire à une forme d'archaïsme littéraire, une sorte de nonchalance. C'est ce qu'on peut retrouver dans certains passages de l'introduction générale de l'éditeur de la collection des universités de France, hein, qui a publié sa traduction durant la première moitié du XXe siècle, et qui était un petit peu critique par rapport à une histoire qui ne correspondait pas aux critères positivistes qu'on avait vu se développer au XIXe siècle. Voilà, il y a tout ça d'un côté, mais d'un autre côté, on peut penser à une forme d'oralité, essayer de se rappeler aussi les conditions pragmatiques d'accès au texte qu'on pouvait avoir à l'époque, et une pratique de la lecture orale. Cette oralité de la lecture, c'est quelque chose qu'on a peut-être tendance parfois à oublier, mais qui peut peut-être permettre de mieux comprendre ce style propre à Hérodote, le comprendre peut-être comme un style qui pouvait correspondre à un texte qu'on allait lire à haute voix, peut-être justement pas d'une traite, mais par épisode, et d'un texte qui aussi devait pouvoir en permanence surprendre et avoir une sorte de variété. Le terme grec, c'est poikilia, une sorte de bigarrure qui faisait que l'attention de l'auditeur-lecteur était perpétuellement renouvelée par des changements. Et ça, c'est un point qui a été souligné notamment par un lecteur de l'Antiquité, Denis d'Halicarnasse, qui est un auteur du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui, dans un de ses ouvrages critiques, où il étudie comme ça les différents auteurs, les différents styles, les différents procédés littéraires, met notamment en parallèle Hérodote et Thucydide, et souligne chez Hérodote la grande valeur de son style littéraire par rapport à Thucydide, qui juge plus facile à suivre, plus clair, et notamment grâce à ces procédés de changement et cette grande variété de son style, et auquel il attribue une unité beaucoup plus élaborée que celle de Thucydide, paradoxalement. Contrairement à la perception qu'on a pu en avoir après une époque plus récente.
Une petite biographie d'Hérodote.
Il est né à Halicarnasse en Asie mineure, dans une famille dont on ne sait à peu près rien, sinon qu'elle appartenait probablement aux élites. Il a été amené à fuir Halicarnasse pour se réfugier en Grèce au moment de la confrontation entre Darius et les Grecs entre 499 et 493. Et puis il a accompagné, donc son éducation essentielle s'est faite à Athènes, et son problème dans les enquêtes est d'expliquer en gros pourquoi la Grèce et Athènes en particulier sont devenues les matrices du monde. Hein. Il part de cette idée-là, donc il oppose les Grecs aux barbares, ceux qui s'expriment de façon incompréhensible. Il s'est baladé un peu partout, comme l'a très bien rappelé Pierre, et il finit sa vie dans une des ce qu'on appelle les clérouquies d'Athènes, donc dans une colonie d'Athènes qui s'appelle Thurioi, en Italie du Sud, aux environs de 430-420, sans qu'on sache exactement. Il a un énorme succès, hein. Apparemment Thucydide l'aurait écouté, c'est un ami de Périclès, enfin il gravite dans tout ce milieu des gens comme Zénon, comme Périclès, comme les sophistes, et donc il est l'un des emblèmes de ce qu'on appelle le siècle de Périclès, le siècle d'or d'Athènes, la Pentecontaïcie. Ouais, c'est dans ce sens-là, je suis pas du tout helléniste, voilà.
Alors oui, c'est un membre de l'élite, hein, c'est indéniable parce que on connaît pas bien sa famille, mais on sait que d'après des dictionnaires byzantins, tardifs, etc. Encore une fois, parce qu'on a tellement de petits bouts de fragments de rien du tout qu'on fait vraiment avec ce qu'on a.
Violaine Sébiote.
Mais dans la Souda, Hérodote est présenté comme un parent de Panyassis, un poète épique très connu, et de Pigresse, un autre poète épique. C'est-à-dire qu'il y a un environnement intellectuel, érudit, de savant dans son entourage. Panyassis, c'est son oncle, a priori. C'est une famille politique, probablement, en tout cas une famille en vue, puisque au moment de l'arrivée du tyran Lycdamis, toute sa famille émigre à Samos. Il est probablement jeune, enfant, ou peut-être adolescent, quand ils émigrent à Samos. Et puis, à Samos, il y a tout encore un milieu intellectuel avec des poètes très connus aussi pour eux, hein. Nous on les connaît plus, on connaît leurs noms, souvent des poètes épiques. Donc il fait partie de cette élite cultivée. Après, si vous me dites est-ce qu'il est plus cultivé que quoi par rapport à quoi, bon, faut rappeler que dans le monde grec, dans les cités, il y a les citoyens, puis il y a tous les esclaves, et qu'il y a toute cette autre partie de la population qui évidemment est ailleurs, hein. Mais avec une porosité probablement quand même relative, du fait qu'il n'y ait pas de mur et que les gens ne sont pas interdits de se promener sur la place publique.
Hérodote d'Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête afin que le temps n'abolisse pas les travaux des hommes et que les grands exploits accomplis, soit par les Grecs, soit par les barbares, ne tombent pas dans l'oubli, et il donne en particulier la raison du conflit qui mit ces deux peuples aux prises. En Perse, les chroniqueurs attribuent aux Phéniciens la responsabilité de la querelle. Ce peuple, disent-ils, venu de la mer qu'on appelle Érythrée jusqu'à la nôtre, sitôt installé dans la contrée qu'il habite encore aujourd'hui, se lança dans de lointaines navigations, et parmi les pays où il transportait les marchandises de l'Égypte et de la Syrie, il y eut, en particulier, Argos. À cette époque, Argos avait à tous égards la première place dans le pays qu'on nomme à présent la Grèce. Arrivés sur ce territoire, les Phéniciens cherchèrent à placer leurs marchandises. 5 ou 6 jours après leur arrivée, alors qu'ils avaient vendu presque toute leur cargaison, un groupe nombreux de femmes descendit au rivage, et parmi elles, la fille du roi. Son nom, pour les Perses comme pour les Grecs, était Io, fille d'Inakos. Tandis que ces femmes, debout près de la poupe du navire, marchandaient ce qui leur plaisait, les Phéniciens, l'un excitant l'autre, s'élancèrent sur elles. Elles s'enfuirent pour la plupart, mais Io et quelques autres furent prises, et les Phéniciens les jetèrent dans leur vaisseau, qui fit voile vers l'Égypte. C'est ainsi, selon les Perses, mais non selon les Grecs, qu'Io vint en Égypte, et ce fut la première faute commise. Hérodote, l'enquête.
Et il est permis de se promener de pays en pays?
Oui. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un grand trait des enquêtes d'Hérodote, c'est que c'est un grand voyageur. Comme d'autres, hein, des poètes, Arion de Lesbos, il a été en Sicile, il a été à Corinthe. Hérodote, son enquête, elle se déroule dans des régions qu'il a visitées. Alors certaines, on en est sûr, d'autres, on n'en est pas sûr, d'autres, on se pose la question, mais ça va jusqu'à Olbia, donc en mer Noire. La Libye, à Cyrène, la Cyrénaïque, l'Égypte, on l'a dit, hein, donc il y a été. Métaponte, en Italie du Sud, il y a été. Le nord de l'Asie mineure, de la Turquie, la région de Sestos, la région de Bidos, la région de... Donc il a été dans ces régions. Bien sûr, il est passé à Athènes. En fait, on se rend pas compte à quel point les Grecs de cette période, ce monde-là, étaient aussi dans une histoire global, enfin, qui avait une forme on parle, nous, de monde global, mais il y avait aussi cet aspect-là dans le monde grec, à l'échelle de la Méditerranée. Des médecins qui partaient d'Italie ou de Sicile, qui se retrouvaient en Perse, on connaît ça. Et en plus, bon, on a perdu énormément de choses, mais il lisait, puisque à son époque, c'est le moment, j'en ai parlé de la culture orale, mais c'est le moment aussi où on écrit, puisqu'il écrit. Depuis le VIe siècle, lui, il a écrit. Il emploie le terme d'écrire, des graphènes. J'écris. Donc, il dit les gaines et graphènes. Donc il écrit. Et ça, c'est quelque chose. S'il écrit, il lit aussi ses collègues. Aristote a un exemplaire des histoires d'Hérodote dans sa bibliothèque. Mais l'exemplaire où il y a marqué que c'est Hérodote de Tourieuil qui l'a écrit. Bon, c'est un peu problématique, mais bon.
Ah, c'est problématique parce que ça aurait été réécrit.
Non, c'est pas ça. C'est problématique parce qu'on se dit mince, alors on aimerait bien avoir une signature qui soit toujours la même. Mais plus tard qu'après le confirme, il dit voilà, en réalité, certains manuscrits portent Hérodote de Tourieuil, expose ici le résultat de son enquête, et d'autres, Hérodote de Halicarnasse, expose ici le résultat de son enquête. Donc, et plus tard, il dit c'est parce qu'il a bougé, il a été exilé, et donc les deux signatures coexistent. Selon les manuscrits.
Je crois que c'est lui qui a lancé les réflexions sur les méthodes historiques, parce qu'en fait, dans son travail, il a commencé à dire « ça, je le tiens de telle personne », et donc, en fait, de faire naître les premières sources en disant qu'en fait, il avait rencontré des gens ou qu'il avait lu à tel endroit. Et il y a des documents qu'il avait mentionnés et qui ont été retrouvés. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à penser à la notion de source. Donc, il a fait suite dans cette matière, mais aussi dans les contestations, en fait. Parce qu'il y a d'autres historiens qui, plus tard, ont dit « bah, évidemment, c'est pas des méthodes assez précises, en fait ». Et donc, qu'on s'oppose, en fait, à lui ou qu'on décide de le suivre, c'est en ça qu'il est père de l'histoire, puisqu'il a permis une réflexion sur les méthodes historiques et la naissance de ces méthodes historiques. Et en voulant comparer les différentes sociétés, à travers ses mythes, il a aussi fait de nombreux voyages et décrit la géographie du paysage et à la fois les mœurs. Et donc c'est comme ça qu'il a pu lancer aussi à la fois la géographie et l'histoire, et dans son processus de comparaison aussi, l'idée d'une histoire à la fois des individus, avec les rencontres qu'il a pu faire, mais aussi une histoire culturelle et des peuples, en fait. Donc il a lancé un peu tous les modèles d'histoire sans que ça puisse s'appeler histoire, puisque ça ne pouvait pas en être encore, mais il a vraiment mis les graines, en fait, pour tout ce qui a suivi.
Violaine Sépiote, vous êtes historienne. Que signifie le mot « historier » sous la plume d'Hérodote ?
Sous la plume d'Hérodote, vraisemblablement, ça signifie enquête. D'ailleurs, c'est le terme qu'on utilise en beaucoup de traductions. Pour traduire les histoires, on emploie aussi le terme d'enquête. Et très vraisemblablement, alors on ne peut pas dire on n'est pas dans la tête d'Hérodote, et c'est toujours difficile de traduire. Mais vraisemblablement, c'est cela, et c'est un terme qui correspond à la méthode qu'il emploie. Donc c'est pour ça aussi que ça paraît tout à fait correct de traduire « histoire » par « l'enquêteur » et « historia » par « l'enquête ». D'autant plus que quand il commence son ouvrage, il commence en disant « Hérodote d'Halicarnasse délivre ici le résultat de son enquête ». De son historien. Donc voilà, ça, c'est bien ça. Et c'est un terme qui n'est pas le premier à utiliser. C'est un terme qui a été déjà utilisé dans la poésie épique par Homère dans l'Iliade. Et le terme là, il apparaît comme un substantif, l'histor. Et on le traduit plutôt par l'arbitre ou le juge. L'histor, c'est celui qui va rassembler les témoignages, qui va écouter les parties, et qui va ensuite émettre un avis le plus juste, l'avis le plus juste. C'est ça sa position d'histor. Et ça, c'est vraiment les termes qu'on retrouve chez Hérodote. À la fois l'enquête par l'écoute, donc il va écouter, donc le verbe akouein qui revient très souvent, il va écouter les versions, ce que disent les Perses, ce que disent les Égyptiens, ce que disent les Grecs, les Athéniens, etc. Il va aller voir lui-même, Opsis, et il va émettre un avis gnomé. C'est assez, en gros, c'est la démarche, on peut le détailler, on a des exemples, hein, mais c'est vraiment la démarche d'Hérodote.
Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais on a vu qu'il était considéré, dit comme le père de l'histoire, même si on a vu également, je ne sais plus quel siècle, si c'était le 5e siècle avant Jésus-Christ, ouais. La définition quand même d'historien en Antiquité n'est pas la même que l'on attribue aux historiens aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, on peut considérer Hérodote comme un historien parce qu'il parlait beaucoup de... Enfin, je crois qu'il évoquait plutôt des mythes, parce qu'il voulait, par exemple, montrer, comparer les Grecs, par exemple, à d'autres peuples, par exemple, les Égyptiens, je crois. Donc, il inventait parfois des stéréotypes sur les autres peuples.
Hérodote pouvait être une espèce de... compris comme une espèce de Lévi-Strauss de l'Antiquité. En quel sens? Évidemment, il faisait pas de l'anthropologie structurale, mais il a proposé une représentation du monde organisée selon des schèmes qui ressemblent fort aux oppositions structuralistes. Donc c'est une représentation du monde, il a construit une représentation du monde. Alors vous avez... qui s'organisent en fonction du chaud, du froid, du plus, du moins, enfin, donc une série d'oppositions. Et une des oppositions les plus marquées est évidemment celle que vous avez qui existe entre le nord du monde, de la Terre, et le sud. Bon. Le nord froid et le sud chaud, bien sûr, mais avec, entre les deux, toute un jeu d'inversion. Et comme par hasard, au milieu, vous avez la Grèce, qui est le lieu de la juste mesure, aussi bien du point de vue climatique que du point de vue des mœurs, que du point de vue politique, bien évidemment. Bon. Donc ça, voilà, il a construit cette grande représentation du monde, et c'est sur ce canevas qu'il a déployé ses histoires. Et qu'il a donc positionné les différents peuples, et qu'il a raconté les guerres médiques. Mais son récit, sa narration, est elle-même traversée par cette construction d'une représentation générale du monde.
Alors, faire d'Hérodote une pensée réticulaire, ce serait certainement, je suis d'ailleurs pas compétent pour aller jusque-là, mais ce serait certainement excessif. Mais en tout cas, c'est pas une pensée cloisonnée. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il s'intéresse beaucoup à la différence. Ce qu'on a appelé ensuite, d'ailleurs plutôt une vision scientifique d'Hérodote, c'est qu'il a été critiqué à la fois comme étant pro-grec et anti-grec. Beaucoup de ses successeurs ont trouvé, et d'ailleurs ont écrit dès l'Antiquité, des contre-Hérodote, enfin des textes le critiquant, qui considèrent qu'il a déprécié les Grecs, enfin qu'il n'a pas assez mesuré l'originalité, la pensée, la supériorité des Hellènes, qu'il a au contraire trop valorisé les barbares. Inversement, beaucoup ont dit Hérodote est vraiment très grec, et le monde, la grande classification de barbares, ce qui signifie uniquement ceux qui blablatent, barbares, quoi, qui parlent pas grec en fait, hein, qui parlent pas civilisé, est une chose qu'il a quand même particulièrement bien mis en scène. Donc les deux éléments se justifient. Et c'est important d'ailleurs pourquoi Hérodote a été un des penseurs de la Grèce ancienne, un des anciens, comme on aurait dit à partir du XVIIe, les plus utilisés dans l'étude de l'altérité au moment des grandes découvertes. C'est-à-dire que Hérodote, parlant des Égyptiens, des Scythes, des Babyloniens, et au-delà, disant les populations les plus lointaines, on m'en a parlé, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr, c'est quelque chose qui a très largement guidé la lecture qu'on a pu faire de l'altérité, en particulier des Amérindiens.
Christophe Colomb avait lu Hérodote ?
Oh, je suis pas sûr. Mais inversement, les intellectuels du XVIe siècle, bien sûr, on pense d'abord à Montaigne, hein, et des sauvages, mais Jean de Léry, par exemple, avant, ce sont des gens qui avaient Hérodote en tête pour pouvoir penser l'altérité que les Européens rencontraient dans leurs grands voyages, enfin, ce qu'on a appelé au XIXe siècle les grandes découvertes. Donc, ça a été de ce point de vue important, et ça continue entre Rousseau et Voltaire, par exemple. On utilise Hérodote pour le bon sauvage. Enfin, c'est... Voilà.
Les mœurs des Lydiens sont en général semblables à celles des Grecs, sauf qu'ils prostituent leurs enfants du sexe féminin. Les premiers, à notre connaissance, ils ont frappé une monnaie d'or et d'argent, et les premiers, ils se sont fait revendeurs. D'après eux, ils seraient aussi les inventeurs des jeux en usage dans leur pays et en Grèce. Ils les auraient inventés au temps où ils colonisèrent la Tyrrhénie. Et voici comment. Sous le règne d'Atys, fils de Manès, il y eut une grande famine dans toute la Lydie. Les Lydiens l'endurèrent patiemment d'abord, puis, comme elle ne cessait pas, ils cherchèrent quelques dérivatifs, et chacun s'y ingénia de son côté. C'est alors, disent-ils, qu'on inventa les dés, les osselets, la balle, et les jeux de toute espèce, sauf le tric-trac. De ce jeu-là, ils ne revendiquent pas l'invention. Voici comment ils les employaient pour lutter contre la faim. Un jour sur deux, ils passaient tout leur temps à jouer, pour ne pas penser à la nourriture. Le jour suivant, ils mangeaient et s'abstenaient de jouer. Ils vécurent ainsi pendant 18 ans. Mais le fléau, loin de cesser, s'aggravait encore. Alors le roi répartit tout son peuple en deux groupes, et le sort désigna celui des deux qui resterait dans le pays, tandis que l'autre s'expatrierait. Le roi demeura lui-même à la tête du groupe désigné pour rester, et donna pour chef aux émigrants son fils, qui s'appelait Tyrrhénos. Les Lydiens, bannis par le sort, descendirent à Smyrne, se firent des vaisseaux qu'ils chargèrent de tous leurs biens, et partirent à la recherche d'une terre qui pût les nourrir. Ils longèrent bien des rivages jusqu'au jour où ils arrivèrent en Ombrie, où ils fondèrent des villes et où ils demeurent encore aujourd'hui. Mais ils quittèrent leur nom de Lydiens pour prendre celui du fils de leur roi, qui était à leur tête. Ils prirent, d'après lui, le nom de Tyrrhéniens.
Est-ce que François Hartog, Hérodote est le premier à écrire autant sur les barbares ?
Oui. Il n'est pas le premier à écrire sur les barbares, puisque il n'en est pas l'inventeur, mais il est le premier à en faire l'élément structurant de son œuvre, puisque on trouve, c'est la première phrase. C'est la première phrase. Hérodote raconte ses enquêtes et qui ont mis aux prises les Grecs et les barbares. Bon. Donc on a d'emblée le couple grec-barbare qui est donné. Et ce qui est intéressant, évidemment, dans cette présentation, c'est, un, qu'il n'éprouve pas besoin de la justifier. C'est-à-dire que tout grec des années 450 avant notre ère, entendant ça, trouvait ça probablement tout à fait normal. Oui, il y a les Grecs et les barbares. Bon, voilà. Ça représente l'humanité. Alors, bien sûr, c'est un couple complètement asymétrique. puisque vous avez d'un côté les minuscules petites entités grecques et le reste qui représente les barbares. Bon, donc c'est un couple qui ne fonctionne que du point de vue des Grecs et à leur profit. Bon, ça c'était le premier point. Mais l'intéressant est qu'il dit les Grecs et les barbares. C'est-à-dire qu'on peut parler d'une certaine manière de façon égale des deux. Et pour Hérodote, les barbares ne font pas nécessairement preuve de barbarie. C'est encore un autre point, hein, parce que pour lui, le grand partage, au fond, entre les Grecs et les barbares, c'est le partage politique. Les uns vivent en cité, les autres vivent sous des rois. Donc la barbarie est d'abord et avant tout politique, elle n'est pas forcément dans les mœurs.
En philosophie politique, en histoire des idées politiques, on peut très souvent faire référence à Hérodote. Il y a notamment un passage du livre 3 qui est très connu, puisqu'il s'agit des chefs perses qui discutent du meilleur régime possible. Et donc c'est un passage où on a trois Perses qui vont défendre chacun un type de régime. Otanèse va être pour le gouvernement populaire. Mégabyse va lui soutenir le gouvernement des meilleurs, donc un gouvernement a priori aristocratique. Et puis finalement, c'est Darius qui va l'emporter en soutenant lui un gouvernement monarchique. Donc on a une réflexion sur trois types de gouvernements, le meilleur des gouvernements, qui est une réflexion très forte dans la pensée politique et philosophique de toute l'Antiquité et qui apparaît chez les Perses d'ailleurs et dans le texte d'Hérodote.
Est-ce que le fait que cette réflexion apparaisse chez les Perses, ça ne déclenche pas d'hostilité ni de jalousie chez Hérodote? Donc il reconnaît une pensée qui apparaît chez ceux qui ne sont pas de son camp.
Alors ça a même pu être reproché à Hérodote parfois, alors peut-être pas nécessairement ce point précis, mais l'idée en tout cas qu'il était philo-barbaros, et c'est par exemple ce que Plutarque, fin du 1er siècle, début du 2e siècle, après Jésus-Christ, a pu lui reprocher. Il réussissait finalement à glisser des idées relativement critiques à l'égard de son époque et de ses contemporains, mais de manière plus implicite.
La plus honteuse des lois de Babylone est celle qui oblige toutes les femmes du pays à se rendre une fois dans leur vie au temple d'Aphrodite pour s'y livrer à un inconnu. Beaucoup d'entre elles, fières de leur richesse, refusent de se mêler aux autres femmes et se font conduire au temple dans des voitures couvertes où elles demeurent avec de nombreux serviteurs autour d'elles. Mais en général, cela se passe ainsi. Les femmes sont assises dans l'enceinte sacrée d'Aphrodite, la tête ceinte d'une corde, toujours nombreuses car si les unes se retirent, il en vient d'autres. Des allées, tracées en tous sens par des cordes tendues, permettent aux visiteurs de circuler au milieu d'elles et de faire leur choix. La femme qui s'est assise en ce lieu ne peut retourner chez elle avant qu'un des passants n'ait jeté quelque argent sur ses genoux pour avoir commerce avec elle en dehors du temple. Il doit, en lui jetant l'argent, prononcer uniquement la formule « J'invoque la déesse Milita ». Milita est le nom assyrien d'Aphrodite. Quelle que soit la somme offerte, la femme ne refuse jamais, elle n'en a pas le droit et cet argent est sacré. Elle suit le premier qui lui jette de l'argent et ne peut repousser personne. Mais ceci fait, libérée de son devoir envers la déesse, elle retourne chez elle et par la suite, on ne saurait lui offrir assez d'argent pour la séduire.
Comment est composé le livre d'Hérodote ?
Le livre d'Hérodote, aujourd'hui, pour nous, si on prend une édition contemporaine, il est présenté en 9 livres. Donc, 9 livres qui ne correspondent pas vraiment d'ailleurs à la narration, c'est-à-dire ça peut se couper au milieu de ce qu'on appelle un logos, donc un discours, un récit. Et ces 9 livres, c'est un découpage qui provient très probablement de l'époque alexandrine, c'est-à-dire au moment où, dans la bibliothèque d'Alexandrie, on a fait venir beaucoup de manuscrits, et les manuscrits à l'époque c'est des papyrus, et commencer à faire des copies de ces ouvrages, et donc avec 9 livres. Alors 9 livres, il faut voir aussi que les manuscrits à l'époque sur papyrus, ils sont enroulés. Ces 9 livres, c'est, je ne sais pas à quelle époque, si c'est au moment du papyrus, si c'est au moment, puisque je vous l'ai dit, on le connaît simplement à partir de les 9 livres, à partir de Diodore de Sicile, 1er siècle. On ne sait pas très bien à quel moment ça s'est produit. Et les noms des neuf muses, la première attestation qu'on a, c'est au IIe siècle après Jésus-Christ.
Voilà, le choix des neuf muses et des neuf livres est quelque chose qu'on ne peut pas attribuer à Hérodote. Néanmoins, on peut se demander si le choix des neuf muses, qui ont toutes des centres d'intérêt différents, la danse, le chant, la rhétorique, l'histoire, l'astronomie, n'est pas révélateur d'un intérêt tous azimuts d'Hérodote pour le monde et pour ses différents aspects. Je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais en tout cas, ça peut traverser l'esprit.
Lucien, lui, il a rédigé ses logoi, ses discours, ses récits. Il les a probablement matériellement collés, parce que c'est des papyrus. Donc on colle des petites feuilles les unes aux autres, et puis on les enroule, ça fait un grand rouleau qu'on déroule pour le lire et qu'on réenroule de l'autre côté. La longueur des histoires d'Hérodote, c'est à une centaine de mètres, en fait, de papyrus. Si on considère que le papyrus de base, que la feuille, elle dispose des colonnes sur 20 cm de hauteur et 10 cm de large. Voilà, il faut avoir une idée. Donc c'est vraiment très long, une centaine de mètres de texte. Du coup, cette écriture extrêmement longue par rapport à l'époque, c'est le double de l'Iliade. C'est un tiers plus long que la guerre du Péloponnèse. Ça pose la question de la composition. Et donc ça a été une vraie question, ça, pour les historiens. Est-ce qu'Hérodote a écrit des discours sur l'Égypte, sur les Perses, sur la Lydie, sur Crésus, sur les guerres médiques ensuite, ou est-ce... Et puis ensuite, il les a collés les bout à bout. Peut-être qu'il a fait des lectures publiques. On ne peut pas faire 50 heures de récitation, c'est 50 heures, hein. 50 heures de récitation publique. Est-ce qu'il a fait des petites récitations? Et puis qu'un jour, il s'est dit, bon, maintenant, je colle tout ça ensemble, je vais en faire un livre. Ou est-ce que dès le départ, il a eu le projet de faire un livre ou une composition unique qui avait une intention de raconter à la question de cette opposition entre la volonté de puissance, l'impérialisme des peuples et le refus de la servitude? Parce que c'est ça, en fait, hein, les histoires. C'est la domination, alors, des Lydiens, des Perses, et puis en fait, à son époque, des Athéniens. Il écrit à une époque où les Athéniens dominent, et la résistance. Des Grecs, dans son cas. Et puis là, à son époque à lui, à la résistance peut-être de certaines cités de sa région à lui, dans le cadre de l'Empire. Donc voilà, c'est compliqué, c'est pas tranché. Il y a eu beaucoup de positions qui ont été prises. Aujourd'hui, on est plutôt sur une perspective unitaire.
Est-ce que vous pouvez rappeler, François Hartog, ce que pensait Voltaire d'Hérodote?
Oh bah,
ce qu'il en a écrit.
Il n'avait pas une estime très grande pour Hérodote, autant que je me souvienne, parce que, justement, pour lui, Hérodote, c'était encore la fable. Bon, plus largement pour Voltaire, toute l'histoire ancienne était fabuleuse. Et ne commençait là. Alors pour lui, l'histoire véritable, elle ne commençait pas avec Thucydide. Elle commençait plus ou moins avec Voltaire, quoi. Et bien sûr, cette mise en question de toutes ces fables anciennes était une manière de mettre en question la fable biblique.
Pourquoi avez-vous appelé votre livre Le miroir d'Hérodote?
Pourquoi Le miroir d'Hérodote? Ben justement, parce qu'il offre un miroir par cette construction. Il offre un miroir du monde. Bon. Et si je me place alors d'un point de vue historiographique, il est aussi ce miroir dans lequel nous nous sommes regardés. Pour dire, c'est de l'histoire, c'est pas de l'histoire, c'est déjà un peu de l'histoire. Bon. Donc il y a ce rapport de type, justement, réflexion, de réfléchissant, que l'œuvre d'Hérodote a toujours joué depuis l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui encore.
On l'a jamais oublié, Hérodote. Ça, c'est vraiment quelqu'un qu'on lit tout le temps. Ben, j'ai évoqué les philosophes des Lumières et à propos de l'essai sur les mœurs de Voltaire, hein, qui contre Rousseau. Enfin, il y a plusieurs textes qu'il a rassemblés dans ce volume, mais en grande partie parce que l'histoire du bon sauvage de Rousseau l'avait profondément agacé. Et donc, il va pas mal utiliser les lectures anciennes, mais évidemment, toutes ces personnes sont toutes nourries de textes anciens, et en particulier d'Hérodote. Voilà, faut dire que je serais plus compétent et plus compétent moi-même pour lire Hérodote dans le texte, si je l'ai même déjà jamais vraiment réussi. D'autant plus que c'est pas de l'attique, si j'ai bonne mémoire, c'est du ionien qui est un peu lui-même transformé. Mais il faut bien pas oublier que le grec n'est pas unifié, donc il y a la différence du latin où il y a quand même un latin officiel, qui est un latin impérial, disons, et il n'y a pas un grec unifié, ça reste une langue extrêmement vivante qui bouge tout le temps. Donc de part et d'autre de la mer Égée, ce qui est à l'origine des mots Europe et Asie, les deux rives de la mer Égée, hein. Il y a des variations linguistiques suffisantes, mais c'était pas un problème. Il a vécu à Athènes, dialogué avec Sophocle ou Périclès sans aucun problème.
Sur le personnage lui-même, à lire son œuvre, on se dit que c'est sans doute quelqu'un qui avait vraisemblablement une grande curiosité, une grande mémoire aussi, un grand intérêt pour les autres, avec une ouverture d'esprit tout à fait particulière. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un passage qui est souvent cité dans le livre 3, c'est le chapitre 38. Darius est en train d'étudier les coutumes funéraires des Grecs et celles des Indiens. Et donc, il constate que les Grecs incinèrent et que les Indiens, eux, mangent leurs morts. Et donc, voilà des rituels qui peuvent surprendre de part et d'autre. Mais la leçon qu'on en tire avec Hérodote, c'est que ce qui paraît normal aux uns paraît tout à fait impossible et répugnant aux autres. Et donc la conclusion est une citation de Pindare qui est traduite généralement par la coutume et la reine du monde. Alors la coutume, c'est le mot nomos qui est utilisé en grec par Hérodote et qui est traduit par coutume. Alors voici le passage traduit par André Barguet pour Gallimard. Tous les hommes sont convaincus de l'excellence de leurs coutumes. En voici une preuve entre bien d'autres. Au temps où Darius régnait, il fit un jour venir les Grecs qui se trouvaient dans son palais et leur demanda à quel prix ils consentiraient à manger, à sa mort, le corps de leur père. Ils répondirent tous qu'ils ne le feraient jamais, à aucun prix. Darius fit ensuite venir les Indiens qu'on appelle Calati, qui, eux, mangent leurs parents. Devant les Grecs, qui suivaient l'entretien grâce à un interprète, il leur demanda à quel prix ils se résoudraient à brûler sur un bûcher le corps de leur père. Les Indiens poussèrent les hauts cris et le prièrent instamment de ne pas tenir de propos sacrilèges. Voilà bien la force de la coutume, et Pindare a raison, à mon avis, de la nommer dans ses vers la reine du monde.
Nous sommes allés dans une classe d'Hippocagne et à Henri IV, écoutez ce que les élèves avaient à dire d'Hérodote, et ils ont rappelé qu'ils avaient étudié en début d'année Hérodote en philosophie. Vous avez parlé des qualités littéraires d'Hérodote. Alors pourquoi la philosophie peut-elle aussi s'emparer d'Hérodote ?
Mais ça m'intéresse, comment ils ont relié Hérodote et la philosophie, quel point de vue ? Ils n'ont pas explicité ?
Non.
Alors peut-être que c'est, j'en sais rien, si j'étais philosophe et que je devais faire une classe, enfin je devais intégrer Hérodote dans ma classe de philosophie, pourquoi je l'intégrerais ? Probablement pour... sur l'épistémologie de l'histoire, en fait, sur la question de la vérité, du vraisemblable, du relativisme. Je crois que ce qui est très intéressant chez Hérodote, et pour nous aujourd'hui en particulier, c'est que, justement, par rapport à Thucydide, qui va démontrer une vérité, la cause, c'est celle-ci, la cause la plus vraie. Il y a beaucoup de causes dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse, mais quand même une cause qui est la plus vraie, c'est celle dont on a parlé. C'est quand même la puissance des Athéniens qui fait peur aux Lacédémoniens. Et ça, il faut le savoir pour toujours, c'est ce qu'il dit. Hérodote, il n'est pas dans cette démarche. Il dit la vérité, c'est ce que les gens pensent être vrai. Alors, je vais interroger les gens. Je vais leur demander ce qu'ils pensent être vrai sur Hélène, par exemple, sur Crésus, sur tout. Et je vais vous présenter les différents discours. Parfois, je ne vous donnerai pas mon avis parce que je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas trancher. Parfois, je le dis, c'est mon avis. Voilà. Et je trouve que cette manière-là d'exposer, en fait, les possibles...
Et les subjectivités.
Et les subjectivités, pour nous, c'est plus parlant. En tout cas, c'est très contemporain, en fait.
Je ne sais pas s'il prend parti pour un parti conservateur ou progressiste, si c'est pertinent de parler de ça à l'époque. Mais je sais qu'il était assez nationaliste dans le genre, parce qu'il était très... Il défendait vraiment la nation grecque, et il ne pouvait pas se penser autrement qu'en grec, et dans son œuvre, Quand, par exemple, il décrit les Égyptiens, il les décrit en creux de ce que pouvait être le modèle grec, et d'une certaine manière, il les critique. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir si Hérodote est exact sur tout ce qu'il dit sur les peuples étrangers, notamment, parce que il y a toujours ce modèle grec qui se dessine en creux de ce qu'il raconte de l'autre, de l'étranger.
Est-ce qu'il est possible de savoir à quel où va la préférence d'Hérodote dans le panel des régimes politiques, François Hartog?
Oui, il est, par tout ce qu'il raconte, il est favorable à ce mouvement qui s'est produit entre le 6e et le 5e siècle dans beaucoup de cités grecques, c'est-à-dire l'instauration d'un régime qu'on appelait isonomique. Passer des tyrannies, qui ne sont pas des tyrannies nécessairement au sens moderne, c'est-à-dire des tyrans sanguinaires, etc., mais qui sont tout simplement, tyrannos voulait dire le pouvoir d'un seul. Bon, parfois, il pouvait être sanguinaire, mais c'est la manière de caractériser un régime. Donc, ce mouvement qui a vu la Grèce passer de ces régimes tyranniques à ce qu'ils ont appelé l'isonomie. Et l'isonomie, ça veut dire la loi, isos c'est égal et nomos c'est la loi. Bon, donc c'est la loi égale pour tous, mais c'est aussi et d'abord la loi, chacun prend une part égale à la confection de la loi. Donc c'est pas seulement la situation aujourd'hui où on vous dit la loi est égale pour tous, et elle est là la loi. Et puis vous êtes prié de considérer que vous êtes soumis à la loi, et qu'elle est égale pour tous. Dans l'isonomie telle qu'elle était conçue dans les premiers temps comme programme politique, si vous voulez, comme projet politique, c'est de dire nous sommes également responsables de la confection de la loi. Nous prenons une part égale à la confection de la loi. Et cette situation fait que nous sommes des citoyens et que nous sommes justement par ce fait-là en position de parité. Après, vous pouvez dire que le corps des citoyens, il est plus étendu ou plus restreint, selon que c'est... Alors, s'il est plus étendu, on va vers le régime de type démocratique, et s'il est plus restreint, on est plutôt dans un régime de type oligarchique. Mais le point central, c'est cette affaire de l'isonomie, ce qui veut dire qu'il n'y a pas appropriation du pouvoir par un seul.
Après, je pense que Hérodote en lui-même, comme on l'a vu avec le débat perse, ne prend peut-être pas vraiment de position vis-à-vis du type de régime idéal, parce que à cette époque-là, donc le 5e siècle, notamment avec Platon dans la République, il y a tout l'anacyclose qui va se développer, qui va être repris plus tard par Polybe jusqu'à Machiavel. L'anacyclose, c'est le cycle des gouvernements, donc en 9 phases, il me semble, et en fait qui s'enchaîne extrêmement logiquement, et en fait qui retourne à son point de départ à chaque fois. Donc ça passe par l'anarchie, l'oligarchie, l'ochlocratie, la démocratie, et d'autres, mais dont j'ai oublié. Mais du coup, notamment d'ailleurs avec le débat perse, peut-être que Hérodote en lui-même ne prend pas vraiment de parti idéal, ou du moins ne propose pas une vision idéale du type de régime.
François Hartog, Hérodote utilisait des cartes, mais est-ce qu'il a aussi lui-même tracé des cartes?
On n'en sait rien du tout. Parce que malheureusement, on n'a pas les manuscrits d'Hérodote. Ce serait plausible qu'il ait griffonné des choses sur comme ça, un bout de papyrus, le cas échéant. Mais ça n'est pas non plus nécessaire de l'imaginer, parce que c'est une construction intellectuelle. Bon. Et en faisant jouer ces catégories que j'évoquais, le chaud, le froid, les mœurs inversées, les Égyptiens font exactement le contraire de ce que font les Grecs, etc. On peut, de proche en proche, construire toute une représentation des cultures du monde. Et c'est quand même de cela dont il s'agit. Il a donné ce grand tableau des cultures du monde qu'on a ensuite discuté. Les gens ont dit non, oui, peut-être, pas comme ça. Mais c'est une des premières constructions de ce type. Je veux dire, Thucydide ne fait pas ça. Thucydide, il raconte la guerre entre les Lacédémoniens et les Athéniens, et il n'y a pas du tout de dimension anthropologique, ou très très peu, chez Thucydide. Bon. Chez Hérodote, oui, vous avez cette immense ouverture, cette grande curiosité. du monde. Il est curieux du monde, Hérodote. Voilà, ce que n'est pas du tout, ou beaucoup moins, Thucydide.
S'il m'arrivait de ne pas toucher aux histoires pendant des années, je gardais toujours présent à l'esprit leur auteur, Hérodote, qui avait jadis été un homme en chair et en os, qu'on avait oublié pendant plus de 2 millénaires, et qui était redevenu, pour moi du moins, des siècles et des siècles après, un personnage vivant. Il prenait l'apparence et les traits que mon imagination leur attribuait. Il était devenu mon Hérodote à moi. Et comme je me l'étais approprié, il m'était particulièrement proche. Nous avions un langage commun et nous étions capables de nous comprendre à demi-mot. Je l'imaginais s'approchant de moi alors que j'étais assis au bord de la mer, puis, après avoir posé de côté sa canne et secoué le sable de ses sandales, il engageait la conversation. Il était sûrement comme ces gens qui aiment parler et font la chasse au public, qui ne peuvent se passer d'auditeurs, qui, incapables de vivre sans eux, se dessèchent. Médiateurs infatigables, en état d'excitation permanente, ils ne peuvent s'empêcher de transmettre aux autres ce qu'ils ont vu ou entendu. Ils sont incapables de le garder pour eux, même pour un moment. Toute leur énergie, toute leur passion, ils l'investissent dans cette mission. Partir à pied, à cheval, en bateau, s'informer et aussitôt le partager. Ces passionnés se comptent toutefois sur les doigts de la main. Le commun des mortels n'est pas particulièrement curieux du monde. Le simple fait de vivre lui pèse déjà beaucoup, et moins cela lui coûte, mieux cela vaut. La connaissance du monde exige en effet un effort immense qui absorbe l'homme tout entier. Les gens, dans leur majorité, développent plutôt des compétences inverses, notamment celles qui consistent à regarder sans voir, à écouter sans entendre. Et quand surgit un phénomène, comme Hérodote, un énergumène possédé par la soif, la manie, la folie du savoir, et de surcroît doué de raison et de talent littéraire, cet événement prend aussitôt une envergure mondiale. Utile aux autres, les gens comme Hérodote sont au fond malheureux, car très seuls. Certes, ils recherchent l'autre et ont même l'impression d'avoir trouvé là ou ailleurs des êtres proches, de les avoir connus et d'avoir tout compris à leur sujet. Mais en se réveillant un beau matin, il semble soudain que plus rien ne les lie à eux, qu'ils peuvent les quitter sur le champ, car un autre pays, d'autres gens désormais les attirent et les éblouissent, tandis que l'événement pour lequel ils se passionnaient hier encore a pâli et perdu pour eux toute sa signification et son importance. Ils ne s'attachent à rien pour de bon. Ils ne s'enracinent vraiment nulle part. Leur empathie est sincère, mais superficielle. Quand on leur demande quel pays ils préfèrent, ils sont embarrassés. Ils ne savent que répondre. Quel pays ? Richard Kapuscinski, mes voyages avec Hérodote.
Si Hérodote est le père de la géographie, qu'y a-t-il dans ces texte, peut-être en termes de description de paysage, qu'il n'y avait pas chez ses prédécesseurs?
Je ne sais pas très bien quels sont les prédécesseurs d'Hérodote, d'ailleurs, parce qu'en dehors des philosophes anciens, présocratiques, et puis bien sûr des textes les plus archaïques de la Grèce, il y a certainement des géographes au sens que d'ailleurs Hérodote cite, au sens de la cartographie. Mais il n'y a pas véritablement une description des pays. Donc on a plutôt une géographie que continuera Ératosthène, c'est-à-dire cartographique, qu'une géographie comme celle de Strabon, qui est plus une description du monde. Donc c'est en ce sens-là qu'Hérodote serait plutôt innovateur. Mais la question se pose souvent de savoir si Hérodote écrivait avec une carte sous les yeux. Ça, c'est un élément tout à fait important parce que souvent, il nous donne des descriptions qui correspondent aux manières dont on envisageait les choses. Aujourd'hui, et depuis le XVIe siècle, on a tendance à penser la géographie par aire. C'est-à-dire que, moi j'aime bien dire qu'on fait des puzzles. On découpe un morceau de la surface de la Terre, par exemple un continent, pour prendre un de mes dadas, et on remplit en décrivant à l'intérieur de cette surface ou de cette étendue. Tandis que, justement, ce qu'Hérodote appelle, en reprenant et en critiquant les trois parties du monde, Europe, Asie et Libye, enfin, Afrique, mais ça c'est un mont romain, il va dans la manière dont on envisageait ces découpages de l'Antiquité, c'est-à-dire en perspective. On voit à partir d'un point, puis on s'éloigne progressivement en décrivant des étapes, ce qu'on appellera des ceintures, c'est-à-dire en grec des zones, des sonnets. Et donc, on a à ce moment-là une manière d'envisager le monde par mise en perspective, à partir d'un point central qui est évidemment le monde grec, un monde grec qui va de l'Asie mineure à l'Italie du Sud. C'est d'ailleurs la vie d'Hérodote, hein, qui est passé de l'un à l'autre, en passant bien sûr par Athènes. Mais on a toujours cette mise en perspective vers le nord, vers le sud et vers l'est. Et vers l'ouest d'ailleurs également, puisque c'est lui, je crois, le premier qui cite le mot « Pyrénées » pour citer une ville d'ailleurs, et non pas une montagne, enfin bon, mais le mot apparaît. Voilà. Donc oui, il y a une pensée géographique incontestable, sachant qu'il faut nous aussi l'anthropologiser, c'est-à-dire ne pas du tout l'envisager comme une pensée géographique de l'Europe des cinq derniers siècles. Une pensée géographique, parce que la géographie classique pour nous, c'est une géographie assez différente.
On peut peut-être trouver justement dans la réception d'Hérodote, mais très récente, hein, finalement une interprétation, une évocation qui souligne la force de l'oralité, la force de ces récits lus et lus à haute voix. Et c'est quelque chose qu'on a pu retrouver dans, alors à travers, parce que c'est peut-être le film qui a été le plus connu que le roman, à travers le film Le Patient Anglais, qui est sorti dans les années 1990, et qui lui-même était inspiré d'un roman de Michael Ondaatje, L'Homme Flambé, qui était sorti au début des années 90. Et dans ce film, on a donc un patient dont on ne sait rien, qui semble sorti de nulle part. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le patient anglais, qui est un grand brûlé. Donc il y a peut-être aussi cette idée de tout a disparu, tout est oubli. Et la seule chose qui donne une identité à ce personnage, c'est qu'il a avec lui le livre d'Hérodote. Le livre d'Hérodote qui, dans sa matérialité, traduit un peu ce foisonnement de l'œuvre d'Hérodote et cette apparence de digression, puisqu'en fait, c'est un livre qui est truffé de documents personnels qui ont été glissés à l'intérieur du livre. Et dans la structure même du film, on a aussi cette impression, puisque c'est à partir du moment où l'infirmière, le rôle interprété par Juliette Binoche, va lire le livre que le personnage du patient va avoir des réminiscences de son passé qui vont intervenir dans le film à travers des flashbacks. Donc on a là aussi un entrelac qui pourrait faire penser à des digressions d'Hérodote. Et donc évidemment, ça fait penser aussi à la structure de l'œuvre d'Hérodote, ou en tout cas à l'impression qu'elle peut donner. Et tout ça se met en place à partir de cette lecture à haute voix, ce que je trouve assez, assez intéressant et fort. Et en fait, si on poursuit plus loin, il y a notamment une grande scène de ce film, qui est une scène où les différents personnages principaux se trouvent, si je me souviens bien, la nuit autour d'un feu de camp, et se racontent des histoires. Et à un moment, il est question de l'histoire du roi Candole, qui est une histoire d'Hérodote, qui intervient justement dans ces veillées où on se raconte des histoires à haute voix, et qui est une forme de littérature et une forme de digression du temps qui est tout à fait révélatrice, je pense, de l'écriture d'Hérodote et de la façon dont on peut le recevoir encore de nos jours.
Toute une vie, Hérodote, l'enquêteur d'Halicarnasse. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Avec François Hartog, Christian Grataloup, Stavroula Kefalonitis, Violaine Sébillotte, Olivier Coquard et les élèves d'Ibocagne du lycée Henri IV. Lecture Jean Lebrun. Prise de son Arthur Dumont et Bruno Mourlan. Mixage Claude Niort. Coordination Christine Bernard.
Vous trouverez bibliographie, podcast, réécoute et bonus sur la page de Toute une vie sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. La page du site est préparée et enrichie par Sylvia Favre, Elna Freys et Anne-Lise Signoret de la Bibliothèque de Radio France.